Tu ne penses pas que justement dans les problèmes immédiats les plus urgents d'un nouveau gouvernement, la question, je ne dirais pas de l'avortement, de la contraception, mais je dirais de la natalité, est une question primordiale?
Bon, je crois que cette question, il faut la voir par rapport à la situation, tu vois. Parce que cette fille que je te raconte, elle venait d'une zone libérée. Alors, dans les zones libérées, il y a le contrôle de la natalité. Et il y a le contrôle de la natalité parmi la population la plus avancée.
Sous quelle forme?
Et la plus jeune, tu vois. Et par exemple, dans l'armée de libération, bon, il y a les jeunes gens qui se rencontrent, qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble, par exemple. Bon. Ces couples qui veulent s'incorporer à l'armée populaire de libération est interdit d'avoir d'enfants. Bon, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire interdire d'avoir d'enfants? C'est-à-dire amener déjà à une éducation sexuelle sur place. C'est-à-dire qu'à côté de l'entraînement militaire et de l'étude, tu vois, de économique, sociale, il y a aussi l'éducation sexuelle. Et moi, je trouve, tu vois, que ça, c'est aussi une question très révolutionnaire. Parce que jamais, disons, d'une façon normale, les organisations politiques n'auront jamais touché la question de l'éducation sexuelle. Tu vois, ils sont obligés de le faire maintenant. Alors, les commandants de la zone sont les premiers à s'éduquer pour pouvoir transmettre aux autres. Tu vois? Alors, je crois que la question, il faut la voir, disons, de ce point de vue, et pas très mécanique. C'est-à-dire, où il y aura besoin d'un contrôle de la natalité, ça va se faire, sûrement. Les moyens, ils existeront toujours. Le problème, tu vois, c'est, et ici, disons, que l'argument est valable de combattre le contrôle de la natalité en tant que contraceptif forcé, tu vois, c'est-à-dire que bien sûr nous sommes contre cette mesure, mais nous voyons que dans certains problèmes, tu vois, de la contraception ou de l'avortement et de tout ça, c'est un problème qui les nouvelles autorités vont s'affronter immédiatement. Tu vois? Bon, je te dis, ils s'affrontent dès maintenant. Bon, Nicaragua ne l'a pas vécu de cette façon obligatoire. Maintenant, nous sommes en train de les vivre.
Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes encore qu'au Nicaragua dans les...
Non, je te dis ça parce que notre lutte, c'est une lutte qui se prolonge de plus en plus, où les gens doivent s'habituer, pas s'habituer, mais à commencer à vivre dans un état de guerre une vie normale. Tu comprends? Bon, alors, les moyens, tu vois, je ne peux pas te dire exactement quels sont les moyens de contraception, mais je crois que les plus courants, ce sont la mesure chez les hommes, tu vois, plutôt que les pilules. Bon, et ça, parce que c'était aussi pendant les témoignages de cette fille qui m'a dit. Ça existe dans les campements, tu vois, des organisations latino-américaines, sœurs, qui donnent des cadeaux au FMLN, tu vois, comment ça s'appelle, des condoms.
Des préservatifs.
Des préservatifs. Tu vois? Et bon, moi je trouve ça révolutionnaire, c'est-à-dire révolutionnaire dans les sens où l'FMLN est capable de prendre en main, tu vois, cette affaire de l'éducation sexuelle.
Mm-hmm. Mais il y a
Mais que dans les villes, par exemple, ou dans les zones qui ne sont pas sous contrôle de l'armée populaire, tu ne peux pas venir parler de cette question. Et même les femmes, tu vois, qui sont dans les zones libérées, et qui ne se sont pas directement touchés par l'éducation sexuelle, ils se rendent compte parce qu'ils sont en train de vivre avec les soldats. Alors, c'est une éducation populaire. C'est une éducation qui va prendre petit à petit, tu vois. Mais je crois qu'il faut les situer toujours. Sans les poser très mécaniquement, tu vois, les problèmes, et les situer, tu vois, correctement, disons, dans chaque situation qui se développe.
Alors là, justement, tu réponds sur la question du contrôle de la natalité en fonction de l'intérêt du futur État révolutionnaire. C'est en ce moment l'intérêt de la guérilla, c'est qu'il n'y ait pas trop d'enfants qui naissent dans la guérilla. Hein? Mais il peut y avoir un autre point de vue pour traiter la question du contrôle de la natalité, et ce serait alors l'intérêt social qu'on porte à la femme, notamment à la santé de la femme, ou qu'on porte aux enfants, notamment à la santé des enfants et à l'éducation des enfants. Ça, c'est une question qu'on peut se poser quand un gouvernement révolutionnaire ne dit pas un mot sur la question de la natalité après un triomphe révolutionnaire. Comment est-ce qu'il lie la question à la fois de l'éducation, des hôpitaux qui sont surchargés, des enfants qui sont mal nourris, des femmes qui n'arrivent pas à acquérir un minimum de formation pour faire autre chose que domestique, etc., etc. Donc, à travers la question de la natalité, il semble que se pose toute une multitude de problèmes sociaux qui dépassent le fait, si tu veux, de l'envie ou pas de la femme, puisqu'il me semble que ça ne se pose pas tellement dans ces termes-là en ce moment, tu vois.
Oui, non, mais je crois que c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est une question qui va très liée, comme je t'ai dit, à la question de l'éducation sexuelle, d'un côté, que pour nos pays, c'est un tabou, tu vois. Et que déjà, tu vois, pour un commandant d'une zone sur laquelle tombe sa responsabilité, c'est déjà, tu vois, et la prise en main de la question est déjà un pas très qualitatif. Je crois aussi, tu vois, que tout va par rapport à la problématique de l'ensemble global de la femme. Et je crois que c'est ici où repose un peu, disons, et j'espère que ça va continuer comme ça, les débats idéologiques de l'Association des femmes du Salvador, mais en situant toujours la problématique, comme je te dis, dans des conditions très concrètes et réelles de chaque pays. Parce que Nicaragua, par exemple, c'est un pays vide. Le Salvador, c'est un pays peuplé. Le Guatemala, peut-être, est juste. Tu vois, peut-être le Guatemala n'a pas besoin, disons, de toucher cet problème. Et peut-être que le Nicaragua, à la place d'accorder l'avortement au Toussaint, Nicaragua va promouvoir et va faire une politique de promotion pour que les familles aient plus d'enfants et pas le contraire. Tu vois, alors je crois. Et quand on parle soit de l'Amérique latine ou soit de l'Amérique centrale, je crois qu'il faut voir toujours un peu, disons, toutes cette différence, tu vois, qui vont faire que dans chaque pays, tu vois, et dans chaque moment, la question peut se poser d'autrement. Quand je te dis que moi je pense que la question est très révolutionnaire au Salvador, c'est parce que je te dis qu'ils sont en train déjà d'assumer cette question. La question sexuelle. Tu vois, l'éducation qui peut englober tout. Bon, quand une fille de secondaire comme Roxane me dit, moi j'ai déjà la conscience de ce que je veux dans mon futur proche. C'est-à-dire de son travail, de ses études, comment elle va structurer sa famille, tu vois, dans la nouvelle société. C'est toute une génération qui parle pour elle. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'âge de Roxane, 19 ans, il y a ma génération qui avait au moins déjà 12 enfants. Elle ne l'a pas. C'est-à-dire que, de toute façon, l'éducation vient aussi, si tu veux, avec une participation plus active des femmes dans tous les processus et la possibilité, disons, d'avoir une conscience globale de toute la problématique. Même qu'elle ne se touche pas d'une façon ouverte par les organisations politiques, tu vois, Mais je suis sûre que le débat est ouvert à l'intérieur des organisations, à l'intérieur des collectifs clandestins, à l'intérieur des maisons communales. Tu vois? Et ça, ça peut passer dans les villes. Dans les villes, est différente cette disons, convivence des femmes et d'hommes dans une maison clandestine. Tu vois? Dans la campagne, je t'assure que cette éducation commençait à travers les soldats de l'armée populaire, c'est un truc qui va dépasser les cadres.
De l'armée?
De l'armée. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la population civile paysanne habite là. Bon, l'autre fois que j'étais en Suisse, j'ai discuté un peu aussi, disons que dans un pays capitaliste dépendant, tu vois, les enfants ne naissent par un plaisir quelconque, c'est-à-dire par le plaisir d'avoir beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que les enfants naissent comme un besoin de survivance, d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille paysanne et pour la famille ouvrière de Bidonville avoir d'enfants? C'est avoir les moyens de... Ça peut apparaître le contraire et antidialectique, tu vois, mais c'est assurer, tu vois, la survivance du noyau familial. Pourquoi? Parce que si tu vois les statistiques de la santé, les enfants vivent, de 1000 enfants, 400 meurent avant l'âge de 5 ans. Tu vois? Alors, avoir d'enfants, c'est assurer la continuation de l'espèce. Bon, et ça va être comme ça pendant qu'on ne donne pas, tu vois, à la famille, dans la société, disons, une autre possibilité. Ça va être comme ça. C'est-à-dire que si la société ne change pas, la famille a besoin d'assurer l'espèce. C'est-à-dire que c'est une loi naturelle, presque. Pourquoi on ne voit pas ça, disons, dans les familles de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie? Parce qu'ils ont assuré sa survivance pour des siècles avec tous les capitales ramassées, pillées et volées au peuple. C'est eux qui doivent assurer son espèce. Et pas seulement assurer, tu vois, mais aussi penser que quand ils sont déjà vieillards, dans la campagne, 59 est déjà un grand-père et une grand-mère. Ils vont avoir les petits-enfants qui vont les aider au moins à les passer une tortilla avec tout ça.
Mais comme tu sais, en Europe, justement, ce que tu appelles le noyau familial, c'est une chose qui est aussi mise en cause comme étant un des piliers du capitalisme. La famille, les rôles distribués dans la famille, l'apprentissage du respect de l'autorité qui devient ensuite le respect de l'autorité du patron, etc., etc. Est-ce que tu penses que parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes au Salvador, il y en a certains qui envisagent de faire leur vie sur des bases autres que des bases familiales, étant donné justement qu'ils ont eu déjà au travers de la guérilla une certaine vie communautaire différente de celle de la famille? Ou tu penses que ça n'existe absolument pas, cette idée-là?
Non, n'existe pas. On n'a pas eu le temps de réfléchir à ça. Et je ne peux pas te dire non plus comme la question de l'avortement ou de la contraception, que ça ne va pas venir peut-être un jour. Tu vois? Mais si les noyaux familiaux qui sont brisés à l'heure actuelle, est brisé par des conditions de répression. Tu vois, pas par des conditions de répression ou par des conditions d'un développement politique différent.
De tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia poesía de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil.
Puis tu pourrais, puisque tu as parlé beaucoup de la messe, tu pourrais dire actuellement quelles sont les activités de la messe et quels sont ses objectifs primordiaux.
Bon, écoute, si tu veux, l'inquiétude avec laquelle la messe est née, c'était d'un côté, tu vois, le partage, disons, de toute cette expérience et des femmes qui s'avaient incorporées dans la lutte de libération par différents moyens, de les partager avec des femmes qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas eu cette expérience. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs au Salvador, comme les infirmières, les domestiques, les femmes de foyer, les secrétaires, les petits employés de bureau, par exemple, qui n'ont pas aucune type d'organisation, ni syndicale, ni sociale, disons, qui puisse être un moteur, un canal de revendication, disons, de ses propres conditions, quoi. Par exemple, la femme domestique, c'est une femme peut-être la plus exploitée de toutes les femmes, à côté des paysans. Et les femmes domestiques, ils travaillent quelquefois 12 heures par jour, ou 16 heures par jour, avec des salaires vraiment incroyables pour une Européenne. C'est-à-dire que le salaire minimum fixé au Salvador pour une domestique était de 180 francs français, tu vois, et un dimanche sur deux, et ils sont presque des esclaves à la maison. Alors on a pensé que la problématique s'est située, si tu veux, la problématique des femmes s'est située toujours du côté revendicatif. Alors la messe est née, et bon, avec cette, disons, désir de partage des expériences, et amener à cette femme qui souffrait aussi l'exploitation à se manifester. Aussi la messe est née avec, bon, parce qu'il y a beaucoup de femmes, que les maris sont prisonnières, que les maris sont disparus, que, bon, etc., etc. Et une autre revendication était aussi la liberté des prisonniers politiques, c'est-à-dire des femmes qui faisaient partie de la messe. L'arrêt de la répression, bien sûr. Et on luttait aussi pour la diminution, comme on dit, du coût des vies, c'est-à-dire la diminution du prix des éléments, comment on dit,
des aliments, de
des aliments, tu vois. Bon, mais au fur et à mesure, disons que la guerre avance, aussi à Messene, et ça c'est très important parce que c'est avec cet objectif qu'Amessé est arrivé en France et en Europe, on revendiquait la maternité à ce moment-là. C'était l'année dernière, 8 mars, et une des revendications les plus importantes, comme tu vois, c'était le droit à la maternité. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a des centaines, des milliers, on peut dire, des femmes qui ont été stérilisées massivement, tu vois. Et on avait dénoncé dans plusieurs occasions l'estérilisation d'enfants à travers une lait qui venait des États-Unis. Aussi à travers une vaccine qui massivement, tu vois, était, comment dire, appliquée.
Une quoi?
Vaccine.
Un vaccin. Puis à travers du lait?
Oui.
Du lait
qui venait des États-Unis.
Qui rendait stériles les...
Oui, avec des éléments stériles.
Les enfants, les filles et les garçons?
Oui. Des éléments stériles.
Qui avaient été mis là exprès? Oui. C'était pas un accident chimique?
Non. C'est dans la politique des génocides, de l'impérialisme. Lancé depuis 20 ans, dans tout le contexte global de contre-insurrection, le contrôle de la natalité était l'un des objectifs primordiaux. C'est-à-dire qu'il faut détruire les guerrieros avant qu'ils soient conçus. Alors, ils visaient pas seulement les femmes, mais les enfants. Alors, comme nous savons que le problème au Salvador, ce n'est pas un problème de surpopulation, sinon un problème de structure économique, on pouvait pas, à ce moment-là, disons, rentrer dans un accord avec l'impérialisme qui visait à appliquer une politique de génocide, tu vois, de la population salvadorienne. Alors, bon, à mes, un des objectifs est celui-là, l'école à la maternité. Bien sûr, quand nous sommes venus, on a dû expliquer pourquoi et intéresser aux femmes françaises à étudier un peu plus qu'est-ce que c'est la politique de contre-insurrection de l'impérialisme nord-américain, pour connaître que parmi toute la politique des États-Unis et tout ce programme de l'Alliance pour le progrès lancé après la Révolution cubaine, et il disait qu'il faut contrôler la révolution dans tous les continents. Alors, il fallait trois objectifs développés. La contraception, c'est-à-dire le contrôle de la natalité, la démocratisation de l'enseignement et les réformes agraires. Et tout ça allait ensemble. Bon. Alors, comme tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il faut situer et faire beaucoup d'attention chaque fois qu'on va situer un problème, tu vois, soit d'avortement, soit de contraception, parce qu'il faut savoir, disons, derrière cet objectif, qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas, disons, la prise de conscience d'une femme ou d'un couple, tu vois, de ses propres besoins, de son, comment dire, épanouissement, tu vois, ce n'est pas un choix personnel, tu vois, dans ces cas-là, dans ces pays-là. C'est une imposition.
Et sur place au Salvador, la messe, elle peut développer quel genre d'activité?
C'est-à-dire, si tu veux, que la messe, comme toutes les organisations de masse, fait un travail très clandestin. Même si maintenant, et justement dans ce moment, tu vois, il y a toute une, comment on dit, nouvelle réactivation du travail de masse dans l'ensemble, mais avec beaucoup de limitations. Beaucoup. Parce que si tu veux, la question de AMS a commencé depuis 1978. Des enquêtes, des questions, des problèmes posés, tu vois, sur la question des femmes. et sur le besoin de créer un instrument comme un MES, tu vois. Et à l'intérieur, bon, au moment actuel, si tu veux, il n'y a plus d'accès et dans les zones libérées. Par exemple, il y a l'hermana Rosa, la sœur Rosa, la mini-ministre de l'alphabétisation à Chalatenango. Nous disons mini-ministre parce que c'était la chargée, tu vois, du programme d'alphabétisation au nord du pays. Elle est en train de travailler avec les femmes et d'organiser les femmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'à côté des travaux d'alphabétisation, il y a aussi une tâche qu'elle fait. Si c'est vrai qu'elle est une sœur guerrière, tu vois, mais elle est aussi, bon, pas seulement capable de prendre les fusils, mais de mettre en marche le programme d'alphabétisation et en même temps d'organiser les femmes. Bon, si tu veux l'expérience dans les zones sous contrôle du FMLN, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ne compte pas beaucoup, disons, la question des sexes. L'expérience au vécu, c'est un peu différente en ce qui concerne la question des valeurs traditionnelles. Tu vois, l'homme, le sexe fort, les femmes, le sexe faible. Dans les zones sous contrôle, on est en train de démontrer qu'il n'existe pas ni sexe faible ni sexe fort. Tu vois. Hommes et femmes sont capables de faire aussi les mêmes tâches. Tu vois. Un homme démoutre le maïs à la pierre, comme a été toujours pour les femmes, comme une femme capable de transporter tout un appareil de télévision, photographe et tout ça. Tu vois, c'est l'histoire des photographes français qui sont allés, qui épuisent, après une marche de je ne sais pas combien de kilomètres, les femmes de la zone ont dû l'aider, tu vois, à transporter tout le matériel, parce qu'ils ne pouvaient plus. Tu vois, ils étaient foutus. Alors, le transport a été fait par des femmes. Alors, tu vois, c'est-à-dire que dans cet aspect, la question et la division du travail est moins préjugée. C'est-à-dire...
Tu sais que la question de la solidarité entre les femmes européennes et puis les femmes d'ailleurs, notamment du Salvador, c'est une des questions qui se pose dans certains milieux actuellement. Alors, je me demandais, l'aide aux femmes salvadoriennes, est-ce que ça peut exister, ou bien la meilleure manière, après tout ce que tu as dit, la meilleure manière d'aider les femmes salvadoriennes, est-ce que c'est pas directement d'aider la guérilla en général, la lutte du peuple salvadorien en général, ou est-ce que tu verrais des possibilités d'exprimer notre solidarité plus spécifiquement envers les femmes?
Bon, je crois que tu vois, ici c'est un choix, comme on dit, je vais te dire, presque personnel, tu vois, des femmes en Europe. Pourquoi je dis presque personnel? Parce qu'il y a des femmes qui se sentent plutôt poussées à faire une solidarité humanitaire, des autres plus politiques, des autres, je ne sais pas moi. Mais moi, d'une façon, comme on dit, globale, ce que moi je fais, un appel. Tu vois, à toutes les femmes à se manifester n'importe de quelle façon, n'importe quel soit le choix. Et par exemple, AMES développe 4 projets, tu vois. Comment si on peut les définir, je ne peux pas te dire s'ils sont politiques, s'ils sont humanitaires, s'ils sont quoi. Bon, ils sont 4 projets de l'Association des femmes d'El Salvador. Le plus important que tu connais, c'est le projet d'enfants. C'est l'encadrement de 2000 enfants dans le nord du pays. À court terme, bon, nous faisons une grande mobilisation pour ça, pour y arriver, tu vois.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une récolte d'argent.
Oui, exactement. C'est pourquoi une récolte d'argent? Une récolte d'argent parce que nous assurons sur place l'achat du ravitaillement pour enfants, c'est-à-dire les repas. C'est un projet de garderie-restaurant. Et dans une zone qui présente, disons, des caractéristiques très propices à éviter les bombardements, ce sont des grottes naturelles, alors c'est là où les enfants, disons, vont habiter, manger, vivre. Bon, mais nous pouvons assurer sur place tu vois, le ravitaillement, à travers même des organisations humanitaires et l'Église qui existent là.
Ça se passe dans une zone...
Disons libérée, bon, le terme n'est pas correct, c'est-à-dire libérée sous contrôle du FMLN. Bon, il y a 8 unités, c'est-à-dire il y a 8 grottes qui vont abriter ces enfants. Bon. Et ça, nous avons besoin par mois, tu vois, d'une aide, c'est-à-dire assurer par mois l'achat de riz, de maïs, d'haricots, de fromage, quelquefois des œufs. Bon, l'autre projet, c'est l'installation d'une clinique clandestine, tu vois. Et il y a beaucoup de besoins parmi la population paysanne et d'une clinique dentaire, par exemple. Parce que dans la population paysanne, il y a beaucoup de déficiences. Bon, alors, toujours les besoins de faire sortir un dent, etc., c'est un besoin énorme. Mais aussi, tu vois, une clinique pour soigner les blessés. Bon, de toute façon, une clinique qui puisse avoir les deux services, ça serait extraordinaire. Tu vois, qui puisse avoir les services dentaires et les services pour soigner des blessés.
Bon. Là, il s'agit de récolter aussi de l'argent.
Tout c'est de récolter de l'argent. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'avec l'Europe, le transport des choses est un peu difficile. Très difficile. Mais il y a la préparation d'un avion par la part de Médecins du Monde, mais ce n'est pas un projet d'AMES. Bon, c'est un projet plutôt global, tu vois, qui l'avion va venir et va servir d'une façon comme ça générale à toute la population qui puisse toucher. Les projets d'AMES sont localisés concrètement dans un endroit géographiquement précis, avec une population précise qui va toucher. Tu vois, nous avons déjà calculé, disons, combien de familles nous pouvons toucher avec une clinique et tout ça. Bon, l'autre projet, c'est l'installation d'une imprimerie clandestine. Tu vois, AMES a besoin de sa propre propagande, de distribuer la propagande d'AMES. Et en même temps, tu vois, de donner à connaître quelle est la situation du pays global, tu vois, par la voix des femmes. C'est-à-dire, c'est toujours différent que la voix du FMLN et que la voix du FDR.
Là, il s'agirait d'une imprimerie de la
clandestine de la messe, tu vois, et ça, on les mettra dans une ville sous contrôle de l'armée. Bon. Et le quatrième projet, c'est le soutien matériel aussi, tu vois, pour le secrétariat international, pour que le secrétariat international puisse nous faire parvenir ces documents que je vous présente, tu vois, l'élaboration du document, l'impression, la dactylographie, la traduction, et tout ça, c'est toujours un besoin. Ces documents doivent être traduits en 3 langues. Alors, il y a aussi l'appui matériel, tu vois, pour ce projet. Alors, qu'est-ce qui passe? Nous présentons les 4 projets et chaque femme en Europe puisse faire son choix, soit politique, soit humanitaire, soit etc. Tu vois, nous ne définissons pas nos projets. Il y a des besoins concrets et nous les présentons comme ça, par des besoins concrets, mais bien sûr, pour nous, c'est plus facile d'envoyer l'argent, c'est-à-dire nous changeons immédiatement en dollars, parce que c'est plus facile d'envoyer un petit paquet de dollars que d'envoyer des tonnes de médicaments et des choses comme ça. Tu vois, nous n'avons pas les moyens.
Mais le matériel pour monter une imprimerie ou monter une clinique, ça ne se trouve pas sur place au Salvador actuellement.
C'est trop aux États-Unis. Par exemple, il y a le matériel chirurgical qui aux États-Unis est moins cher qu'ici en Europe. C'est-à-dire moins cher parce que nous avons tout un réseau de femmes qui soutiennent la messe, des femmes nord-américaines, médecins, infirmières, etc. Alors, si nous envoyons l'argent, tu vois, et cet argent ça va, bon, avec tout l'argent recueilli, rassemblé un peu partout, on fait les achats aux États-Unis. Bon, c'est-à-dire qu'il y a les canaux, bien sûr, qui sont secrets, on peut dire comme ça, tu vois, pour faire y arriver tout ce matériel. Bon, soit à travers, je dis secret, mais la vérité c'est que soit à travers les mêmes organismes internationaux qui se trouvent là, ou l'Église, tu vois, l'archevêché. Toujours il y a cette possibilité, c'est-à-dire de faire après les matériels par des voies.
La campagne pour récolter de l'argent pour ces projets, elle a déjà commencé?
Oui, elle a déjà commencé. J'ai fait ma tournée en Suisse. Et justement, je suis en train de préparer une lettre ouverte aux femmes qui m'ont reçue à ce moment-là. Et une lettre que je l'appelle lettre ouverte aux femmes suisses. De la part d'un mère, tu vois, en remerciant, disons, et bon, tout ce qu'ils m'ont montré à mon passage. Tu vois, la sympathie, l'appui solidaire des femmes suisses.